Bonsoir à tous, bienvenue pour cette 31e soirée d'éthique publique, la quatrième de cette année universitaire des facultés jésuites de Paris. Bienvenue aux fidèles de ce rendez-vous, bienvenue aussi à ceux qui viennent pour la première fois. Bienvenue et bonne année. Je nous souhaite pour 2012 d'être des hommes et des femmes en éveil, ni naïfs, ni désabusés, mais soucieux de nous situer de la manière la plus juste face aux enjeux de notre époque. Les soirées d'éthique publique veulent très modestement être au service de cette ambition, comme des fenêtres sur des réalités sociales, politiques, internationales, qui nous concernent tous d'une manière ou d'une autre, l'objectif étant d'essayer au moins de nous donner les uns aux autres quelques éléments de compréhension et d'analyse, de repérer des critères ou des pistes qui nous permettront de continuer notre propre réflexion personnelle ou avec d'autres. Notre prochaine soirée aura lieu le mardi 7 février en partenariat avec l'hebdomadaire Le Pèlerin. Il sera sur le thème « Chrétien et politique, quel repère ?» pour les élections. Je crois que sur ces questions de politique, nous avons bien besoin de réfléchir et de parler ensemble. Je rappelle qu'il est toujours possible de s'inscrire à l'accueil du Centre Sève ou au secrétariat si vous désirez être informé par mail du thème de la prochaine rencontre, et de même il est possible d'écouter ou de réécouter l'enregistrement de la soirée, de toutes les soirées précédentes d'ailleurs, sur le site internet du Centre Sèvres, www.centresèvres.com. Alors ce soir, il nous a semblé important de revenir sur la situation du monde arabe, en Tunisie, en Égypte, en Libye, en Syrie et dans bien d'autres pays du monde arabe. L'année 2011 reste gravée pour longtemps dans les mémoires. La révolte arabe partie de Tunisie le 17 décembre avec l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi, un marchand de légumes à Sidi Bouzid, a essaimé en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, un peu comme une traînée de poudre, et on n'imaginait pas cela. Les importants mouvements populaires qui ont vu le jour au printemps ont conduit, nous le savons, au prix d'intenses luttes et au péril de nombreuses vies humaines, à la chute de dictateurs que d'aucuns pensaient indéboulonnables. Le monde arabe a changé, mais la situation n'a pas fini de bouger. Certains régimes anciens, comme en Syrie, résistent encore aux aspirations de changement. Ailleurs, ce changement peine à trouver une stabilité. La victoire de la démocratie, de la jeunesse, des réseaux sociaux a pu sembler s'éloigner avec les avancées politiques et les succès électoraux de mouvements jugés fondamentalistes. Alors, quel constat peut-on faire de ces révolutions arabes qui ne sont pas complètement terminées? Quels sont les enjeux pour l'avenir? Les chrétiens ont-ils à craindre de ces évolutions, de ces révolutions? Autant de questions et bien d'autres sur lesquelles nous n'y voyons pas toujours très clair, qui sont des questions également qui nous touchent les uns les autres. Et il nous semblait donc important de revenir ensemble ce soir sur ces sujets en donnant la parole pour ouvrir le débat à nos invités. Et tout d'abord, je suis très heureux de retrouver et d'accueillir Agnès Rottivel, grand reporter qui depuis des années parcourt le monde arabe qu'elle connaît très bien pour le quotidien La Croix. Nous sommes nombreux à avoir suivi les événements de Tunisie, d'Égypte, de Syrie, d'Afghanistan, d'Israël, entre autres pays, à travers tes reportages et tes analyses. Tu devais partir en Irak ces jours-ci.
Oui.
Le voyage est momentanément reporté et c'est une chance pour nous parce qu'il nous permet de t'avoir avec nous. Merci beaucoup d'être là ce soir, de nous faire profiter de ta connaissance précise des situations locales et également de ta vue d'ensemble. On ne présente plus M. Robert Solé, écrivain et journaliste français d'origine égyptienne, né au Caire. après des études au collège des pères jésuites du Caire, vous me permettez de le dire, j'y trouve un certain plaisir. Vous arrivez en France, je crois, à l'âge de 18 ans pour commencer une brillante carrière de journaliste, essentiellement au quotidien Le Monde, où vous avez eu les plus hautes responsabilités. Dans un premier temps, rédacteur à la rubrique religieuse, puis correspondant à Rome et à Washington, vous avez occupé tour à tour les fonctions de rédacteur en chef, de directeur adjoint de la rédaction et de médiateur du journal, avant de prendre, je crois, la direction du supplément littéraire. Et voilà près d'un an à peu près, je crois, que vous avez signé votre dernier billet quotidien en dernière page du Monde. Mais on connaît aussi l'écrivain, l'auteur de nombreux romans comme Le Tarbouche, mais aussi de récits historiques et d'essais, comme notamment Le Pharaon renversé, 18 jours qui ont changé l'Égypte, qui est paru aux éditions Les Arènes, sur précisément la révolution égyptienne. L'Égypte est votre passion. Vous n'avez pas cessé de suivre l'évolution politique, sociale et culturelle de votre pays d'origine. Merci beaucoup d'être là ce soir pour nous aider à comprendre les enjeux de ce pays et de cette région. Enfin, nous serons rejoints tout à l'heure par M. Boutros Allah, qui est né à Yabroud, en Syrie, docteur d'État et lettres et en sciences humaines, agrégé d'arabe, qui est actuellement professeur de littérature arabe moderne à l'Université de Paris-Sorbonne, Paris 3. Il dirige le Centre d'études arabes de Paris 3. Il est l'auteur également de nombreux ouvrages, notamment sur la littérature arabe, sur la langue arabe. Je pense à l'histoire de la littérature arabe moderne, ou bien de son étude sur l'œuvre de Khalil Gibran, Gibran et la refondation littéraire arabe aux éditions Sinbad. Mais son intérêt pour la littérature, nous l'entendrons tout à l'heure, ne l'a pas coupé, au contraire même, je dirais, des enjeux sociopolitiques que connaît le monde arabe, et il reste un observateur particulièrement averti de ce qui passe dans cette région et particulièrement dans son pays d'origine, la Syrie. Voilà, alors sans plus attendre, eh bien, comme nous en avons l'habitude, je vais laisser la parole à nos invités pour nous dire comment ils voient la situation, environ un quart d'heure chaque intervention, avant de prendre le temps du débat entre nous tous. Qu'est devenu le printemps arabe ? Je laisse la parole à Agnès Rotivel.
Merci et bonjour. Je vais essayer d'être assez systématique pour qu'on peut-être reprendre avec vous les différentes phases de ces révolutions arabes. Je pense que c'est assez nécessaire parce que un mouvement qui a commencé en Tunisie, mais finalement s'est répandu dans d'autres pays arabes. La révolution s'est déclenchée en Tunisie, c'était la révolution de Jasmin. Il y a eu un mouvement de contagion dans différents pays, l'Égypte, la Libye, et puis d'autres pays, le Yémen, la Syrie, entre-temps des pays du Golfe aussi, Bahreïn. On a peu parlé aussi des mouvements qui ont eu lieu en Arabie Saoudite, mais il y a eu des mouvements, le Koweït. Il y a eu aussi des débuts de révolution, de manifestations dans des pays comme le Maroc, l'Algérie, très peu, mais quand même. Et tous ces pays ont en sorte, quelque sorte, des points communs que j'énumérais comme la dictature. Tous ces pays avaient des dictateurs au pouvoir. Ces dictatures étaient déconnectées souvent du peuple, régnées par le biais de la corruption, du népotisme, érigées donc en mode de gouvernement, et les atteintes aux droits de l'homme étaient évidemment très fréquentes et courantes. Dans ces pays, on note aussi une population souvent très jeune, sans illusion sur son avenir, mais qui ne voulait plus de ses dirigeants, mais qui était pour la plupart non politisée. Une autre partie de la population moins jeune, souvent adhère aux idées des jeunes qui ont voulu renversés ou qui ont été, disons, parfois les moteurs du renversement. Cette population souvent soutient les plus jeunes parce que elle se dit qu'elle n'a pas eu le courage en son temps de se révolter ou n'a pas eu aussi la possibilité parce que les dictateurs plus jeunes étaient souvent aussi beaucoup plus redoutables. Les jeunes ont utilisé, la particularité de ces révoltes a été l'émergence de jeunes qui ont utilisé des moyens techniques, des moyens de communication, des réseaux sociaux, Internet, Twitter et autres, qui d'une certaine façon ont souvent dérouté les leaders, les pouvoirs en place, qui s'ils étaient au courant de ces moyens de communication, au fond les utilisaient peu, les utilisaient souvent très mal, et ne voyaient pas le danger qu'il pouvait y avoir dans ces nouveaux moyens de communication. Ils les ont souvent sous-estimés. Un autre facteur commun à tous ces pays, c'est la crise économique, endémique, souvent catastrophique pour la plupart. Je pense à l'Égypte, mais vous en parlerez beaucoup mieux que moi. Je pense à la Tunisie, des pays où la situation économique est difficile parce que les structures mêmes du pays n'ont pas évolué, comme le Maroc, des pays où la situation est de toute façon catastrophique, comme l'Algérie, d'autres pays comme la Syrie, on en parle souvent assez peu, mais la situation économique est difficile en Syrie. Peut-être que des pays diffèrent de cette analyse. Il s'agit des pays du Golfe, puisqu'on parle de l'Arabie saoudite, où le PNB, le produit national brut, est très élevé. Le Koweït, Bahreïn, mais où les gens ont quand même tenté de se rebeller pour des questions souvent de droits de l'homme et de liberté. Les différences entre ces pays, et j'ai oublié d'ailleurs de parler de la Libye, et j'y pense particulièrement parce que l'une des différences qui existent entre la Libye et par exemple la Tunisie ou l'Égypte, c'est que ces pays, comme par exemple le Yémen aussi, présentent des caractéristiques tribales importantes, ce qui n'est pas le cas d'autres pays arabes. Ce sont des pays souvent qui ont beaucoup de ressources, de ressources minières ou des ressources énergétiques, le pétrole, comme la Libye. La Syrie a quelques ressources. L'Égypte, en revanche, est assez dénuée de ressources, si ce n'est la population. Donc, des pays qui sont assez inégaux face à leurs ressources. Donc, ça me conduit à penser qu'on ne peut pas dire que les révolutions arabes se ressemblent. Il n'y a pas une révolution arabe, il y a eu plusieurs révolutions arabes. Maintenant, quels sont les projets politiques de ces révolutions? Au fond, on s'aperçoit que la plupart du temps, les gens qui se sont soulevés, les gens qui ont manifesté, n'avaient pas véritablement de projet politique. C'est la caractéristique souvent de ces révolutions. Mais il y a une frange de la population dans ces pays arabes qui, elle, a un projet politique et pour la plupart du temps, ce sont les islamistes. Ce sont des partis qui sont organisés, qui sont dirigés par les frères musulmans et qui sont dans l'opposition depuis longtemps. Souvent, ils ont été emprisonnés, réprimés, forcés à l'exil. Et donc, ce sont des partis qui n'étaient pas forcément des partis politiques, puisqu'en Égypte, les frères musulmans, les partis religieux ne pouvaient pas être des partis politiques, mais qui ont créé ou construit tout un réseau social, de bienfaisance, des réseaux de cliniques, des réseaux d'écoles, et qui ont donc une structure, une base dans la société. Alors que les dictatures, elles, reposaient souvent sur un parti unique, la plupart du temps, après la Révolution, ces partis uniques ont été démantelés. Ce n'est pas pour autant que ces partis, d'une certaine façon, existent encore. On le voit par le biais de certaines personnalités qui continuent à avoir un rôle dans la politique. On l'a vu en Égypte au moment des élections, certaines personnalités de l'ancien PND continue à avoir un rôle important ou continue à être très important dans la région dans laquelle la région à laquelle ils appartenaient. Et au milieu de tout ça, on a souvent des structures, des nouveaux partis politiques qui ont émergé à l'issue de ces révolutions, mais créés par des gens qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas l'argent, qui n'ont pas les réseaux, mais qui ont quand même tenté le coup de créer des partis politiques et qui vous font souvent la réflexion. On n'aura pas de présence dans ces élections-là, mais on travaille pour l'avenir. Et quand je parle de ces partis politiques, je pense particulièrement à l'Égypte, où il y a beaucoup de jeunes partis politiques qui ont émergé. Et j'étais assez étonnée quand j'ai parlé avec ces gens-là. Et ils n'ont aucun moyen par rapport à la plupart, par rapport par exemple aux frères musulmans ou à des personnalités politiques connues en Égypte. Mais ils ont déjà cette maturité qui leur a permis de comprendre qu'ils n'ont pas les structures, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les moyens, mais ils travaillent déjà pour l'avenir, c'est-à-dire qu'ils travaillent le terrain. Ce sont des gens qui font beaucoup, qui vont dans les villages, qui vont dans ces différentes régions et qui commencent à faire une opération de conscientisation de la population. Alors, si on faisait le bilan aujourd'hui, un premier bilan, c'est difficile de faire un bilan de révolutions qui ne sont pas terminées. Mais si on pouvait faire le bilan, on dirait que, au fond, de toutes ces révolutions, ceux qui ont ramassé la mise sont plutôt les islamistes. Beaucoup s'en inquiètent. Je ne sais pas, ce sera l'objet de la conversation ou de la discussion qu'on en aura. On le voit en Égypte. On le voit en Égypte. Ce n'est pas encore définitif puisque les élections ne sont pas terminées, mais effectivement, les premiers résultats montrent que à la fois les frères musulmans, mais aussi les salafistes ont remporté énormément de voix et seront majoritaires à l'Assemblée. En Libye, ce sont des mouvements islamistes qui sont au pouvoir. Et évidemment, en Tunisie, c'est le cas. Donc, on est dans une situation où la carte politique de ces pays a changé. Peut-être qu'en Égypte, la situation est un petit peu aussi différente puisque l'armée garde un pouvoir important et qu'on ne sait pas trop comment l'armée va organiser ou comment elle va gérer la situation de l'après-élection. Mais on a pu voir, et particulièrement en Égypte, la capacité de la population à redescendre dans la rue dès qu'elle a compris qu'on essayait de la priver de sa révolution. Alors, elle redescend dans la rue, elle manifeste. Et on pensait souvent que le mouvement allait se tasser. Et finalement, non, le mouvement peut redémarrer, surtout que les jeunes sont extrêmement organisés, communiquent très vite. Et surtout que sur les réseaux sociaux, ils discutent énormément. C'est ça qui est très intéressant. Je pense que je peux plus parler davantage de l'Égypte que d'autres pays parce que moi, je m'occupe du Moyen-Orient et non pas du Maghreb, même si j'ai été en Tunisie. Et j'ai remarqué que vraiment il y avait des discussions politiques ou des discussions sur les choix de société ou sur les choses que ces gens-là trouvent très importantes, qui circulent sur les réseaux sociaux et qui sont tout à fait dignes de ce que l'on entend sur les réseaux sociaux aussi en France ou qu'on entend dans les conversations politiques en France. Donc je dirais qu'il n'y a pas de différence entre des Égyptiens, des jeunes Égyptiens ou des Égyptiens moins jeunes. Il n'y a pas de différence entre eux et par exemple des gens qui vivent en Europe. Les mêmes aspirations. Ils ont les mêmes aspirations, à la liberté, ils ont les mêmes aspirations au respect des droits de l'homme, ils ont les mêmes aspirations aussi au travail, avoir un travail décent. Souvent, les générations plus âgées commencent à craindre ce mouvement de révolution permanent parce que aussi l'expérience qu'ils ont eue du passé les aide, mais ils craignent que le chaos survienne dans leur pays et que finalement, non seulement ils soient privés de leur révolution, mais on revienne en arrière. Alors, je voudrais pas continuer trop longtemps sur mon sujet, mais je voulais dire que peut-être que globalement, ce que je pense de ce qui se passe actuellement, c'est que dans les pays où j'ai pu aller, que j'ai pu étudier, j'ai un peu le sentiment que on ne pourra pas revenir en arrière, même s'il y aura des tentatives, que ce soit en Égypte de l'armée de reprendre une partie du pouvoir, ou de certains partis politiques d'oublier qu'ils ont été aussi des aspirations du peuple à la liberté. Je pense qu'il y aura des hauts et des bas, c'est inévitable. Il y aura aussi d'énormes défis qui sont des défis économiques. Ces pays-là sont dans une situation souvent très difficile, que les dictatures, je parle particulièrement de la Tunisie puisque j'avais beaucoup travaillé là-dessus, mais le régime précédent a littéralement siphonné l'économie tunisienne, dont en Europe on se plaisait à dire que c'était une économie qui était plutôt bien gérée. Elle était très mal gérée, elle était surtout gérée par des gens qui s'en mettaient aussi plein les poches et qui ont surtout vraiment aspiré l'économie nationale à leur profit. L'économie égyptienne est dans un triste état et il faudra beaucoup, beaucoup de volonté et puis aussi, je pense, d'économistes avisés pour redémarrer l'économie. La Libye, je pense que c'est un pays qui peut s'en sortir beaucoup plus facilement de ce côté-là, puisqu'il a énormément de ressources et que c'est un petit pays en termes de population. Voilà. Donc, on a des pays dont la révolution n'est pas terminée. On a d'autres pays dont la révolution a été étouffée. Il ne faut pas oublier que Bahreïn est un pays où la révolution, malheureusement, n'a pas pu s'achever. Et on a d'autres pays comme le Yémen où on est encore un petit peu dans l'incertitude sur ce qui va se passer et où il ne faut pas trop se faire d'illusions non plus. La révolution risque de ne pas aboutir peut-être à ce que l'on espère. Il y a d'autres pays comme le Maroc où les choses progressent lentement. Je ne suis pas très apte à en discuter parce que je ne travaille pas sur le Maroc. Ou l'Algérie où il y a beaucoup d'espoir, mais je crois aussi des difficultés. Voilà. C'était peut-être. Je voulais peut-être en terminer aussi avec des questions peut-être que vous poserez et que je me pose aussi, qui sont. Il y a des pays arabes où on n'a pas vu grand-chose, qui sont des pays comme l'Irak, où je pense que les bouleversements de ce pays interne, on a vu des manifestations, surtout des manifestations de gens qui protestaient contre la situation économique. Mais je pense que les problèmes politiques dominent et sont prédominants donc dans ces pays. Et il y a aussi la question palestinienne qu'il ne faut pas oublier, même si les Palestiniens n'ont pas été très, disons, très en avance sur ces mouvements, mais il faut aussi rappeler que dans les territoires palestiniens, il y a eu des élections déjà, des élections qui avaient été saluées par l'Union européenne comme étant très démocratiques. Donc je pense qu'ils avaient aussi un pas d'avance sur les autres et que d'autres préoccupations aussi font que la révolution n'est peut-être pas prioritaire pour l'instant. Voilà.
Merci beaucoup Agnès de nous avoir dressé ce panorama de ce qui s'est passé. Il n'y a pas une révolution arabe, chacune a ses caractéristiques, mais tu as bien, je crois, mis en avant un peu quelques traits communs. Je souligne cette population très jeune, sans illusion, non politisée, et pourtant qui aspirait au changement, le rôle des réseaux sociaux.
Sans illusion sur ses dirigeants.
Sur ses dirigeants, oui, oui. L'importance de la crise économique. Ouais. Et puis, pas de projet politique immédiat, sauf de la part d'une frange qui, elle, a été prête à prendre ou à récupérer le pouvoir, les partis islamistes. Mais en même temps, et je trouve que c'est important ce que tu nous as dit, que si les partis islamistes étaient prêts à accéder au pouvoir, il y a un grand travail de conscientisation politique des générations plus jeunes avec lequel il va falloir compter pour l'avenir. Merci Agnès. Je laisse la parole à Monsieur Robert Solé, qui à la fois pourra partir de l'expérience égyptienne et puis aussi élargir son propos à plus large.
Oui, bonsoir. Je vais surtout parler de l'Égypte, en fait, mais je partirai de ce qu'a dit Agnès Rotivel, qui a très bien fait un panorama général. Je pense en effet que chaque pays arabe est un cas particulier. Chacun est un cas particulier. Je me souviens que je me trouvais en Égypte une semaine avant les événements d'il y a un an, et tout le monde expliquait que l'Égypte n'était pas la Tunisie. Toutes les différences entre ces deux pays, je pourrais en parler pendant une heure, ce ne serait pas très intéressant. Chaque pays arabe est un cas particulier, mais il y a, je pense, une aspiration générale, pour dire les choses schématiquement et simplement, à la liberté. Mais la liberté, ce n'est pas la démocratie. Et on s'aperçoit dans tous les pays où il y a eu un soulèvement populaire qu'il ne suffit pas de renverser un régime autoritaire pour faire naître une démocratie. Et c'est le cas de l'Égypte. Alors je m'en tiens à la question qui était posée, n'est-ce pas, qu'est devenu le printemps arabe? Et je vais essayer de répondre à la question, qu'est devenu le printemps égyptien un an après, un an exactement après, puisque c'est le 25 janvier qu'a été déclenché ce soulèvement populaire. Alors, d'une manière générale, la situation apparaît préoccupante. Elle est préoccupante sur le plan économique, puisque l'Égypte, comme la Tunisie d'ailleurs, a été très affectée dans son tourisme, le tourisme qui en Égypte est la principale ressource en devises étrangères. Je dirais que plus que ça, l'image de l'Égypte a changé. L'image de l'Égypte aux yeux, et ça c'est préoccupant pour les responsables du tourisme égyptien, l'image de l'Égypte a changé. L'Égypte, c'était un pays de sable, le Nil, le désert, les temples, les pharaons, l'Égypte éternelle, paisible. Et là, on a des images d'affrontements urbains, une Égypte urbaine, avec des affrontements violents. Et ça, ça marque les gens et ça les inquiète, ça change l'image du pays. Alors, sur le plan économique, une baisse du tourisme, des investissements étrangers, évidemment, qui hésitent, qui sont hésitants, et puis dans tout le pays, des revendications salariales à tous les niveaux, partout, avec des mouvements très soutenus et très justifiés parce que les salaires sont misérables, mais on ne peut pas satisfaire à toutes ces revendications. Sur le plan de la sécurité, là aussi c'est préoccupant, puisque la police a été l'une des victimes de cette révolution, la police qui était au nid, qui n'a pas été démantelée, mais qui a été cassée, et qui a un désir de revanche. Et il se trouve que pendant les événements, pour des raisons obscures, beaucoup de prisonniers se sont évadés. Il se trouve aussi que depuis les événements de Libye, beaucoup d'armes circulent en Égypte, venues de Libye et un peu du Soudan, et que tout ça crée une situation d'insécurité. Sur le plan politique, on a un régime qui a été décapité, on a renversé le pharaon, et contrairement à ce qui se passe dans les pays où il y a une révolution, il n'a pas quitté le pays, il est resté sur place, on le juge en ce moment, comme vous le voyez. Le régime a été décapité, mais n'a été, je dirais, que décapité, puisque la plupart des structures et des hommes sont encore en place. C'est un pays qui donne l'impression de ne pas être gouverné. Il lui manque une tête, c'est un pays qui est habitué depuis des siècles et des millénaires à avoir un pharaon à sa tête et qui n'a pas de chef pour le moment. Et on a par moment, alors je rejoins un petit peu ce que disait Agnès de Rottivel, on a l'impression que ce printemps arabe est un printemps islamiste. Puisque, comme vous l'avez dit, les grands bénéficiaires pour le moment de tous ces événements, ce sont quand même les islamistes. Non seulement les frères musulmans, qui avaient une existence officiellement illégale, mais qui en réalité était tolérée et avaient même des députés, non seulement les frères musulmans, mais des mouvements plus extrémistes que sont les salafistes, on y reviendra peut-être dans la discussion. Évidemment, pour les chrétiens d'Égypte, c'est aussi une situation préoccupante. Pendant les 18 jours qui ont conduit à la chute de Moubarak, on avait assisté au contraire à une très belle union entre chrétiens et musulmans, que tout le monde saluait. Il n'y a pas eu un seul incident confessionnel pendant ces 18 jours. On a vu des chrétiens, des musulmans, des chrétiennes aussi, et des musulmanes, voilées ou non, ensemble. C'était assez spectaculaire. Et depuis la chute de Moubarak, on assiste au contraire à des incidents confessionnels, parfois très graves, dont on se demande s'ils ne sont pas provoqués par des provocateurs, etc. Alors je donne tout ça, c'est un tableau assez sombre de la situation, mais c'est un peu la réalité. C'est un peu la réalité, ça n'empêche pas d'autres choses très positives parallèlement d'exister en Égypte, on y reviendra. Alors les islamistes. Les islamistes, puisque tous les regards sont focalisés quand même sur ces islamistes, qui au total vont faire 65% des voix aux élections législatives. Vous savez que l'Égypte est le berceau de l'islamisme moderne, puisque c'est en 1928 que sont nés en Égypte les frères musulmans. Et que ce mouvement a donné naissance lui-même à des groupes nombreux, divers, qui très souvent l'ont dépassé, sont allés beaucoup plus loin que lui. Les frères musulmans, par exemple, ont renoncé depuis longtemps à la violence, alors qu'il y a des groupes en Égypte et ailleurs qui sont violents. Les raisons de cette popularité qui a un peu étonné tout le monde, parce que moi je me rappelle jusqu'à il y a encore quelques mois, avant les élections, tous les analystes politiques expliquaient que les islamistes ne feraient pas plus de 30% des suffrages. En réalité, les raisons de leur popularité, elles sont... Il y a plusieurs raisons à cette popularité des islamistes. Là, je vais aller très vite parce qu'il faudrait développer chacun des points, mais je signale simplement les choses, on y reviendra peut-être. La première, c'est l'échec du panarabisme. La guerre des six jours, en juin 1967, a été un événement considérable pour le monde arabe. Ça a été un peu la fin de Nasser et la fin du panarabisme. Ayant renoncé à ce panarabisme, beaucoup se sont tournés vers l'autre voie qui était celle de la nation musulmane. On a vu l'Arabie saoudite prendre une importance de plus en plus grande dans la région et on a assisté à tous ces phénomènes qu'on appelle de réislamisation dans le monde arabe. Une autre raison de la place qu'occupent et de la popularité qu'ont les islamistes en Égypte, c'est le désengagement de l'État. L'Égypte est passée assez brutalement, après la mort de Nasser, sous Sadat, elle est passée du socialisme étatique à une libéralisation sauvage. L'État s'est désengagé de toute une série d'actions sociales et ça a permis à des mouvements comme les frères musulmans de s'implanter dans les quartiers, de faire des actions de bienfaisance très efficaces et d'acquérir une certaine popularité. Une autre raison qui explique aussi l'importance des islamistes, c'est l'émigration. L'Égypte est un pays qui, pendant des millénaires, a été un pays sédentaire. Les Égyptiens ne quittaient pas la vallée du Nil. était enraciné dans la vallée du Nil. À partir des années 1970, pour des raisons économiques, des Égyptiens au chômage sont partis à l'étranger. Ils sont partis d'abord dans les pays du Golfe. C'était souvent des gens pauvres, sans culture, sans éducation importante. Beaucoup d'entre eux ont fait fortune et sont revenus en Égypte avec de l'argent et avec des épouses voilées et des idées fondamentalistes. Et ils ont eu une grande influence en Égypte même. Enfin, la place qu'occupent aujourd'hui les islamistes s'explique par l'attitude du pouvoir lui-même. Le pouvoir a commencé, ça a commencé avec le, non pas Moubarak, mais son prédécesseur Sadat. Sadat, qui par ailleurs a fait de grandes choses, a fait la paix avec Israël, mais sur le plan intérieur égyptien, Sadat a joué pendant tout un temps la carte islamiste pour contrer la gauche égyptienne et les nassériens. Ça lui a coûté d'ailleurs très cher puisqu'il a été lui-même assassiné par des islamistes. Toutes ces raisons expliquent ce succès des islamistes. Si vous ajoutez à tout ça le fait que nous sommes dans une société qui est profondément religieuse. L'Égypte n'est pas un pays où il y a des religieux d'un côté, des laïcs de l'autre. C'est une société qui, dans sa globalité, est une société depuis toujours très religieuse. Avec une accentuation très nette ces derniers temps. Une accentuation qui est due aux raisons que je viens de dire, qui est due aussi, parce qu'on assiste à quelque chose de très contradictoire dans un pays comme l'Égypte, et ce n'est peut-être pas simplement le cas de l'Égypte, on le trouvera dans d'autres pays. Vous avez deux phénomènes très contradictoires et concomitants. C'est-à-dire que d'une part, il y a une ouverture sur le monde extérieur, l'Égypte est plus ouverte qu'elle n'a jamais été sur le monde extérieur, en raison de la télévision, du téléphone portable, d'Internet, etc. Et vous assistez parallèlement et en même temps à un phénomène de repli identitaire. On a ces deux phénomènes qui s'expliquent aussi ce repli identitaire par des humiliations subies, des échecs subis. Je parlais de la guerre de 67. Mais il y a tout le conflit israélo-arabe que les Égyptiens, les Arabes vivent comme une humiliation permanente. Il y a ce poids de l'Occident, cet Occident dominant, cet Occident si fort qu'on rejette et qui fascine en même temps. Et bizarrement, toute cette religiosité accentuée, accrue, s'accompagne en Égypte depuis quelques années de mauvais comportements. Là aussi, c'est très paradoxal. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de drogues qui circulent, autant de harcèlement sexuel. Et pendant les 18 jours qui avaient conduit à la chute de Moubarak, justement, on avait assisté au contraire de tout ça. Et tout le monde s'extasiait en disant « c'est formidable ». Mais il y a des hommes et des femmes qui vivent ensemble sur cette fameuse place de la libération, nuit et jour. Il n'y a pas un seul acte de harcèlement sexuel, les gens se respectent. Il n'y a pas de drogue, il y a des comportements remarquables, les gens nettoient, les gens... C'était un peu le contraire de ce qui, malheureusement, se développait depuis des années dans la société égyptienne. Alors, vous avez parlé, bien entendu, des inégalités criantes. C'est évidemment un phénomène important. Une éducation désastreuse, des systèmes éducatifs désastreux, des systèmes de santé à revoir complètement, une absence d'esprit critique dans ces sociétés aussi. On ne se pose jamais la question de l'existence de Dieu. C'est une question qui ne se pose pas. Ni de la révélation divine, etc., etc. Je veux dire, ni de la parole divine révélée, ni de rien. Il n'y a à aucun moment un questionnement. J'ai peur d'être long, mais je me donne encore quelques minutes. J'ai peur d'être long et j'ai peur d'être négatif, mais je ne voudrais pas vous faire un tableau rose de la situation, parce qu'elle n'est pas rose, la situation. Alors, les révolutionnaires, ceux qui ont réussi en 18 jours à renverser Moubarak, les Tunisiens, eux, avaient mis un mois. Les Égyptiens n'ont mis que 18 jours. Et comme les Tunisiens, ils ont eu le courage de descendre dans la rue, d'affronter un régime policier. On a dit c'est une révolution Facebook. Ça n'existe pas, les révolutions Facebook. C'est parce qu'on quitte son clavier, qu'on descend dans la rue, qu'on ose affronter la police, que la peur est vaincue, qu'on renverse un régime. Alors ces révolutionnaires, ils ont eu le sentiment d'être doublement trahis. Trahi d'abord par les islamistes qui s'étaient joints à eux, pas au tout début, mais au bout de quelques jours, et qui ont joué un rôle très important, quoi qu'on dise, dans la révolution égyptienne. Les frères musulmans ont mis toute leur force à partir du moment où ils ont décidé d'entrer dans le jeu, ils ont mis toute leur force dans la rue. Mais ceux qui avaient déclenché le mouvement, ces jeunes Facebook, comme on dit, se sont sentis très vite trahis par les islamistes en ayant l'impression que finalement les islamistes, tout ce qu'ils cherchaient, c'était une légalisation et une prise du pouvoir. Et ils ont eu le sentiment aussi d'être trahis et lâchés par l'armée. L'armée vers laquelle ils s'étaient tournés parce qu'ils haïssaient la police. La police était haïe en Égypte, en raison de tous ces mauvais comportements. Haïssant la police, on s'était tourné vers l'armée. Et il y avait eu un mouvement de fraternisation entre les révolutionnaires et l'armée. L'armée qui avait refusé, qui n'avait pas tiré sur la foule, et qui avait lâché Moubarak au bout d'un moment, qui avait lâché Moubarak, l'armée qui ne voulait pas, l'armée qui ne cherchait pas à prendre le pouvoir, ce n'est pas un coup d'État militaire, mais l'armée qui ne voulait pas que le fils cadet de Moubarak, Gamal, lui succède. Et l'armée en a profité, très vite, Gamal a été écarté, aujourd'hui il est sous les barreaux et jugé. Alors cette armée aujourd'hui, un an après, cette armée qui avait une image quand même en Égypte, une image très positive, parce que c'était l'armée qui avait fait la précédente révolution, le coup d'État en fait. C'était un coup d'État, pas une révolution, en 1952, c'est l'armée, les officiers qui avaient fait cette révolution. L'armée qui jouit d'un certain prestige aussi parce qu'elle a fait la guerre d'octobre 1973, une guerre qui est une demi-victoire ou une demi-défaite, mais en tout cas qui a permis pour la première fois à un pays arabe de résister à Israël, de reprendre le canal de Suez. Cette armée qui n'avait pas en Égypte une image de corruption, c'était une institution qui ne semblait pas corrompue. Bref, cette armée avait une image positive. Or, cette armée, aujourd'hui, un an après, a une image assez négative en Égypte, et les manifestations qui vont avoir lieu le 25 janvier pour célébrer le premier anniversaire risquent fort, une partie d'entre elles en tout cas, d'être des manifestations contre l'armée. Cette armée n'a pas su gouverner le pays, elle n'était pas prête à ça, elle ne sait pas maintenir l'ordre. Et parfois, elle le maintient très mal. Elle se comporte aussi mal que la que la police de Moubarak. Et ça, c'est tout un problème, parce qu'on est en train de juger Moubarak, on réclame la peine de mort, on l'accuse d'avoir fait tirer sur des manifestants. Ce qui est très difficile à démontrer. Le problème, c'est que d'une part, on ne peut pas ne pas condamner Moubarak, et qu'en même temps, on n'a pas les moyens vraiment de démontrer sa culpabilité. Mais que si on condamne Moubarak, très vite, on sera amené à juger les chefs de l'armée, dans un deuxième temps. Parce que l'armée s'est comportée aussi mal que la police depuis un an. Il n'y a jamais eu autant de civils déférés devant des tribunaux militaires en Égypte. Selon Amnesty, un rapport qui est paru il y a quelques jours, il y a eu plus de civils déférés devant les tribunaux militaires depuis un an qu'en 30 ans de régime Moubarak. C'est vous dire que l'armée n'a plus la même image qu'il y a un an, en tout cas pour ces révolutionnaires qui ne sont quand même qu'une minorité dans un pays de 80 et quelques millions d'habitants. Alors, parmi les choses positives qui se sont produites en Égypte, il y a des élections. Il y a eu des élections libres qui ont été organisées, des élections législatives. Il y a eu, comme toujours, des petites fraudes, des petits, etc. Mais enfin, dans l'ensemble, ce sont des élections libres qui ont eu lieu. Ces élections donnent un très bon score aux frères musulmans et, à la surprise générale, donne aussi un très bon score, inférieur, mais très bon, aux salafistes qui sont sortis du bois et qui, eux, inquiètent réellement. Alors, ce sont des élections libres et, en même temps, tout le monde sait que les frères musulmans et les salafistes avaient les moyens de faire voter les gens en distribuant des denrées alimentaires, probablement de l'argent, en connaissant très bien, en quadrillant les quartiers, connaissant très bien la population, la faisant voter, et faisant voter parfois des gens qui ne savaient pas pour qui ils votaient. Donc ce sont à la fois des élections libres et des élections faussées, mais qu'il est très difficile de contester. Parce qu'on ne va quand même pas refaire ce qui a été fait en Algérie, avec les conséquences que ça a eues. Et donc la question aujourd'hui, c'est qu'on se prépare à l'arrivée d'une majorité islamiste au Parlement égyptien. Avec une question, est-ce que c'est le Parlement qui va définir la nouvelle constitution? Autrement dit, est-ce que l'Égypte va avoir une constitution islamiste? Ça paraît difficile, quand même. Il y a tout un débat en Égypte en ce moment en disant, même s'il y a une majorité très forte, la constitution ne peut pas être l'émanation d'une majorité. La constitution doit représenter toutes les tendances d'une population. Donc il va y avoir un gros débat sur la Constitution. Le gouvernement, on va avoir un gouvernement à majorité islamiste. Est-ce que les islamistes vont s'allier entre eux? Autrement dit, est-ce que les frères musulmans vont faire alliance avec ces fous furieux que sont les salafistes? Apparemment pas. Ils n'ont pas intérêt à le faire. Ils ont intérêt à s'allier avec des mouvements dits laïcs ou libéraux de l'autre camp. Mais ils auront quand même une influence dominante dans le gouvernement. Jusqu'ici, leur slogan électoral aux frères musulmans, c'était « L'islam est la solution ». Leur fondateur, Hassan el-Banna, disait, lui, de façon plus nette encore, mais c'était en 1928, le Coran est notre constitution. Depuis qu'ils s'approchent du pouvoir, depuis qu'ils voient qu'ils vont pouvoir accéder au pouvoir, les frères musulmans ont mis, si j'ose dire, de l'eau dans leur vin. Ils n'emploient plus ce slogan, on n'entend plus l'islam est la solution, mais on se pose des questions. Ils s'affirment démocrates, ce sont des choses qui restent à démontrer. Il y a beaucoup de déclarations contradictoires pour le moment qu'on entend, mais aussi des déclarations très contradictoires dans le camp salafiste. Les salafistes, un jour, disent des choses complètement folles et le lendemain expliquent qu'ils font un discours proche de la démocratie. Quand on leur pose des questions précises, est-ce qu'une femme peut devenir présidente de la République? Est-ce qu'un copte peut devenir président de la République? Là, évidemment, ils esquivent la réponse. Cela dit, les frères musulmans savent qu'ils vont devoir se confronter à la réalité. Ils en ont conscience. Je pense que leur but n'était pas, au départ, de prendre le contrôle de l'État. Leur but était de poursuivre l'islamisation croissante de la société égyptienne. Mais aujourd'hui, c'est comme les salafistes. Un salafiste pur et dur, en principe, ne s'oppose pas à un pouvoir musulman, pour ne pas diviser la communauté musulmane. Mais les salafistes, voyant leur force, ont pris goût à la chose, ont créé des partis politiques, et aujourd'hui se préparent, aimeraient eux aussi participer au pouvoir. Alors, ils vont devoir se confronter à la réalité, ils vont devoir inventer une politique économique, la bienfaisance ne pouvant pas servir de politique économique dans un pays comme l'Égypte, ou dans n'importe quel pays. Cela dit, et alors pour relativiser un petit peu tout ce que je viens de dire, quand même... Quelqu'un qui s'oppose à la relativisation de... Il faut voir les choses concrètement, si vous voulez. Les choses concrètement, ce qu'il y a de nouveau et d'irréversible qui s'est produit dans un pays comme l'Égypte ou la Tunisie et demain la Syrie, c'est que les gens sont descendus dans la rue, comme je le disais, ont vaincu la peur, ont pris la parole et ne veulent plus la lâcher. Et là, quel que soit le gouvernement, quel que soit le pouvoir en place, il va devoir compter avec ces gens-là. C'est toujours une minorité qui fait une révolution. L'Égypte est un pays de plus de 80 millions d'habitants. Ce ne sont évidemment pas les 80 millions qui ont fait un soulèvement populaire ou une révolution. C'est toujours une minorité qui fait la révolution. Mais cette minorité, elle ne reviendra pas en arrière. Et un pouvoir qui voudra, par exemple, instaurer des lois qui remettraient en question certaines avancées sociales, se heurterait inévitablement à la rue. Et c'est là qu'il y a une grande incertitude pour l'avenir, parce qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Tant que l'Égypte, dans le cas de l'Égypte, je pense que la date importante, ce sera le mois de juin prochain, c'est-à-dire l'élection présidentielle. À partir du moment où l'Égypte aura un président, en principe, les islamistes ne présentent pas jusqu'ici disait qu'il ne présentait pas de candidat à l'élection présidentielle, sachant qu'il ne pourrait pas être élu. Est-ce que ce sera encore vrai au mois de juin? On ne sait pas. Mais en tout cas, il est extrêmement important que l'Égypte ait un président élu, et là, les choses seront différentes. Pour terminer, j'ai rien terminé d'ailleurs, parce qu'on va en discuter après, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Je pense qu'il faut à la fois se garder du catastrophisme, je pense avoir été assez négatif, comme de l'optimisme béat, naïf, qui n'a pas lieu d'être. Une révolution, en tout cas, c'est toujours douloureux, chaotique, on l'a dit, et on a mille exemples de révolutions comme ça. Le chemin de la démocratie, de toute façon, est long, plein d'embûches. Rappelez-vous, après mai 68, il y a eu juin. Il y a toujours ce qui n'a pas empêché les 68ards d'influencer énormément la société française. Ils ont échoué politiquement, mais ça ne les a pas empêchés, les idées de mai 68, Dieu sait aujourd'hui où nous en sommes. Je vous amuse là, je ne sais pas pourquoi, mais... Je veux terminer simplement sur un petit point. J'ai l'impression, on parle beaucoup des islamistes, c'est inévitable, parce que c'est vraiment l'actualité, on est en plein dedans. J'ai l'impression que il y a une tentation aujourd'hui de déplacer le curseur, de dire finalement, il y a des salafistes, ce sont des gens très dangereux, heureusement il y a les frères musulmans qui sont des islamistes modérés. Alors le curseur se déplace, nous devenons moins exigeants, de la même façon qu'on dit la charia, ce n'est pas si grave que ça, il faut voir ce qu'on met derrière le mot charia, etc. Bien sûr, mais je pense qu'il faut juger les gens aux actes. Et les islamistes seront jugés vraiment dans les mois qui viennent, à leurs actes et pas aux propos. On peut discuter à l'infini de ce que représente vraiment la charia. On verra, on jugera sur les actes. Et pour conclure, j'avais noté sous Moubarak, on s'était accommodé de la répression policière. Je dis on, c'est ici, le monde extérieur. Il ne faudrait pas s'accommoder désormais de l'obscurantisme religieux. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Robert Solé. C'est vrai que l'Égypte est le plus grand pays arabe avec sa population. Il était normal que vous preniez du temps pour nous présenter.
J'ai été très long.
Pour nous présenter un peu les enjeux, et je crois que c'est important qu'on repère bien le rôle de chacun, des islamistes, de l'armée, de cette jeunesse qui a fait la révolution, avec aussi ce caractère irréversible de ce qui s'est engagé, et vous nous donnez des clés pour pouvoir regarder l'actualité et les mois à venir. Alors on va continuer on aura l'occasion de revenir sur l'Égypte, on va déplacer la caméra, si je puis dire, jusque vers la Syrie, qui, elle, vit des heures douloureuses et dramatiques. Et je suis heureux de laisser la parole à M. Boutros Allah, qui nous a rejoint, d'origine syrienne, professeur, comme je le disais, de littérature arabe à l'Université Paris 3, directeur du Centre des études arabes de Paris 3, qui va, à partir aussi de cette situation syrienne, élargir son propos sur ce qu'il perçoit de ce printemps arabe, de ce qu'est devenu ce printemps arabe. Merci beaucoup.
Merci et bonsoir à tout le monde. Donc, avant d'arriver à la Syrie, je voudrais essayer de placer ce qui se passe actuellement dans le cadre plus général, cadre géographique et cadre historique. Et surtout que je ne pense pas que ça soit vraiment ce qui se passe actuellement, une révolution, dans le sens classique du terme. C'est beaucoup plus un soulèvement citoyen, une volonté de restauration de la citoyenneté qui ne peut probablement s'expliquer qu'à dans le cadre général de cette dynamique extrêmement complexe qui secoue non seulement le Proche-Orient, mais tout le monde arabe, terme qu'on n'utilise plus beaucoup depuis une vingtaine d'années, depuis deux siècles. Deux siècles, c'est-à-dire ce qu'on appelle le 19e siècle, début du 19e siècle, ce qu'on appelle la Renaissance, le terme Nahda en arabe, signifie exactement ça. Et depuis cette période, je pense qu'il y a deux problématiques qui s'imbriquent de façon extrêmement forte sur toute l'ère arabe. La Nahda au début, c'est-à-dire au début du 19e siècle, milieu du 19e siècle, ça n'était pas du tout une volonté de retour à un passé prestigieux et essentiellement religieux, c'était essentiellement une prise de conscience d'une identité culturelle. Culture qui, pendant un moment donné de l'histoire, c'est-à-dire autour du 10e siècle à peu près, a pu contribuer de façon extrêmement importante à la civilisation mondiale et peut-être, sans faire aucune publicité, serait-il intéressant de lire le dossier de l'Express qui est sorti fin décembre, une 150 pages sur la civilisation arabe avec évidemment quelques analyses sur ce qui se passe actuellement. Et donc dans ce cadre, ce n'était pas du tout une restauration du religieux, à ce moment-là du moins, mais une restauration du culturel. Et vous ne seriez pas étonné si vous voyez les noms des personnes qui ont participé, des grandes personnalités qui ont participé à ce courant. Il y en avait beaucoup de chrétiens, il y avait des juifs et il y avait des musulmans cheikhs de l'Azhar, à commencer par Tahtawi. Et la liste est extrêmement longue, on y reviendra peut-être s'il y a du temps. Depuis ce moment, évidemment, les choses ont beaucoup évolué. Disons que sur la première problématique, en schématisant à l'extrême, donc au risque d'être simpliste, il y a cette opposition, ce binôme intégration-désintégration. Parce que cette volonté de réapparaître dans l'histoire comme une culture au-delà des ethnies, il n'y a pas de notion d'ethnie dans la culture arabe, ni dans l'islam d'ailleurs. Et il y avait cette conscience qu'on faisait partie d'un ensemble et que par l'unité, une certaine unité, une certaine intégration tout au moins, on pourrait reprendre place au niveau international et dans l'histoire, aussi bien dans le domaine scientifique que dans tous les autres domaines. Cela était déjà l'emblème d'un grand réformiste musulman dans les années 1860-70, l'Afrani et Mohamed Abdo, qui travaillait avec une personnalité juive extrêmement importante qui a fondé le théâtre en Égypte, Yaqub Sannour, que vous connaissez sûrement, et avec d'autres personnalités chrétiennes qui étaient dans la même mouvance. Cette intégration qui a commencé de façon plus effective à partir du début du siècle, et pour ne prendre qu'un exemple, sinon ce serait trop long, avec ce que nous appelons la grande révolte arabe, c'est-à-dire au moment où les Alliés, avant la Première Guerre mondiale, ont découvert qu'il y avait un mouvement extrêmement important au Proche-Orient, en vue de cette unification, et à l'époque, on parlait d'unification du Proche-Orient, pas l'Égypte, du nord de la Syrie jusqu'au sud de la péninsule. Ils ont fait alliance avec ce mouvement sous l'égide du prince Faisal, ce qui les a aidés à défaire l'Empire ottoman Et cette alliance a été extrêmement importante du point de vue symbolique, puisque l'émir Faisal était le fils de celui qui était le gardien des lieux saints de l'islam. Mais en même temps, il avait cette vision, disons, arabiste, pas nationaliste, mais arabiste, c'est-à-dire fondée sur cette culture arabe globale. On sait, ça c'est le mouvement de l'intégration, et on sait ce qui est advenu de ce mouvement, c'est-à-dire au moment même où il y avait alliance avec l'émir Faisal, les alliés, c'est-à-dire les franco-britanniques, se partageaient les pays avant la victoire déjà, tracer les frontières du Proche-Orient et en plus donner un foyer juif en Palestine pour le mouvement sioniste qui s'annonçait. Et évidemment, c'est pour donner un exemple. Ce mouvement, volonté d'intégration qui vient de l'intérieur et volonté de désintégration qui venait évidemment de la géostratégie mondiale, à l'époque c'était essentiellement l'Europe, mais qui était soutenu aussi par des gens de l'intérieur. L'alliance, les franco-britanniques, avait des appuis à l'intérieur de ces pays, bien sûr. Et ce n'est pas pour rien que déjà Churchill pensait, dans ce qui est actuellement les Émirats, chercher par tous les moyens à isoler les tribus qui étaient là, et il disait à peu près ceci: il faudrait qu'à chaque puits de pétrole créé une principauté, ce qui a été fait. Donc, et là, donc, les chefs des tribus là étaient tout à fait partants, c'est clair. Donc, il n'y a pas le mouvement de l'extérieur, les mauvais occidentaux qui ont leurs intérêts, et de l'autre, les victimes. Ça ne fonctionne pas. Donc, mais c'est pour donner quelque chose de palpable sur cette dynamique qui a continué. Au moment de l'apogée du nasserisme, c'était également une volonté de rassemblement, d'intégration, parfois par la force, bien sûr, d'où l'invasion du Yémen un peu avant 67 et la résistance farouche de la dynastie saoudite. Et en face, il y avait cette volonté de désintégration qui s'est exprimée de la façon la plus claire avec la guerre de 67, qui, les historiens le savent actuellement, ce n'était pas une riposte à une volonté de Nasser d'étouffer la navigation dans la mer Rouge. C'était quelque chose de préparé de longue date, et les historiens israéliens le disent de façon extrêmement claire. Ce mouvement a continué et continue. Il réapparaît maintenant d'une autre façon. Mais l'autre dynamique qui s'imbrique là-dessus, c'est la modernisation par le haut ou bien la transformation par le bas, par la base. Et là aussi, cette contradiction est en cours actuellement, mais elle vient de très loin. Le premier responsable politique de taille dans le monde arabe était Mehmed Ali en Égypte, dans les années, disons, après la campagne de Napoléon. Et bon, il a pris vraiment le pouvoir dans les années 1815. Sa volonté était de moderniser absolument le pays. Il s'est allié d'ailleurs avec les Saint-Simoniens et c'est lui qui a envoyé la première mission scientifique d'Égypte en France, Tartawi. Et ce qu'il voulait, c'était la modernisation et d'abord la modernisation par l'armée. Construire une armée forte, donc avoir des ingénieurs, des architectes, des usines, avoir également une intelligentsia pour traduire, pour ceci, pour cela. Donc, le but essentiel, c'était ça. Ensuite, la modernisation peut s'étendre à l'économie, mais jamais plus loin. Il a réussi dans un premier temps, avant d'être, puisqu'il est arrivé jusqu'aux confins, jusqu'en Anatolie, Et puis, il a été repoussé par les Anglais et les Ottomans. Ce mouvement, cet exemple, a été suivi également en Tunisie dans les années 1830 avec Ahmad Bey. Et ça a continué, je pense, Nasser. Alors, il est tout à fait différent de Mohamed Ali. Il représentait quand même une inspiration populaire extrêmement profonde. Mais au fond, il s'est glissé dans ce sillage et il a voulu moderniser par l'armée. Il y avait des raisons objectives. Ensuite, par l'économie, par l'industrialisation. Et le reste pourrait venir par la suite. Les deux parties basses, soit en Égypte, soit en Syrie, soit en Irak, ont fait à peu près la même chose, mais jamais la démocratie n'a été réalisée, puisque c'est la volonté d'imposer par le haut une modernisation en y associant l'élite, les élites. Et la plupart des intellectuels, disons-le modestement, ont marché là-dedans, soit par intérêt, soit par conviction, c'est aussi possible. Mais en face de ça, il y a, dans l'équation, il y avait bien sûr cette volonté de modernisation par le haut qui venait de l'armée, du pouvoir et des élites, disons. Mais de l'autre côté, il y a eu à peu près à tous les moments des mouvements populaires, pas des révoltes, mais ce que j'appelle des soulèvements dans le sens citoyen moderne. Pour ne citer qu'un exemple, et vous comprendrez ce que ça signifie en voyant la date, en 1858, c'est-à-dire 10 ans après la révolution de 1848 en France, avec son extension dans toute l'Europe, et un mouvement qui a bouleversé toute l'Europe. Il y a eu un reflux, mais finalement, ça l'a emporté. Il y a eu au Liban, au Mont Liban plus précisément, un mouvement des paysans chrétiens, et essentiellement maronites, contre leur féodalité maronite. Et avec un discours qui est absolument semblable à ce qui au discours des révolutionnaires de 1848. Et avec des références à la Révolution française extrêmement nettes. Ce mouvement a été contré par les puissances locales, bien sûr, mais également par la géostratégie internationale à l'époque européenne, française, autrichienne, britannique, puisque ce mouvement qui s'était étendu de l'autre côté chez les Druzes, puisque c'était les deux communautés les plus importantes au Liban, des paysans druzes contre leur féodalité druze, très rapidement, l'ensemble, la coalition des féodalités, des élites, disons des élites locales, avec la stratégie européenne, a transformé cela en une lutte communautaire entre maronites et druzes. Il reste... Non, 5 minutes ? 5 minutes, pas plus. Oui, oui, bien sûr. Donc je m'y tiendrai. Vous m'arrêterez si vous m'arrêterez. Et ce mouvement a eu également quelque chose d'analogue en Égypte après la révolte de Hora Bibasha en 1882, quelque chose qui ressemble un peu à l'anarchisme, le mouvement anarchiste russe, mais bon, pas tout à fait. Et il y a eu également la même chose avec les intifadas palestiniens. C'était également un mouvement populaire exprimant la volonté du peuple de prendre le pouvoir et de prendre en main sa destination. Cela aussi, évidemment, c'était ce qui a gagné, ce qui a prévalu alors, c'est évidemment le point de vue de la modernisation par le haut, modernisation qui a échoué parce qu'elle s'imposait par le haut et à cause du jeu international, peu importe. Ce qui se passe actuellement, donc je... que ce soit en Tunisie, en Libye c'est un peu différent, en Égypte bien sûr, mais au Yémen, au Bahreïn, en Syrie, et qui va s'étendre sûrement à des pays comme l'Algérie. C'est quelque chose qui est le produit de ces problématiques contrariées ou qui s'entrechoquent. Le mouvement qui est à l'origine est un mouvement, un soulèvement de citoyens, c'est-à-dire une volonté de restauration de l'État pour qu'il puisse créer une situation de citoyenneté où tout le monde, au-delà des confessions, au-delà des classes, au-delà des idéologies, puisse se rassembler. C'est ce qu'on appelle la citoyenneté. Or, ce mouvement qui ne reviendra jamais en arrière, comme ça a été très bien dit par Robert Solé, qui reconnaîtra, il connaît déjà quelques échecs, il continuera. Mais il a contre lui aussi bien les intérêts géostratégiques de l'Occident, des États-Unis bien sûr, actuellement, et il a contre lui les élites dans le sens global, donc ceux qui ont le pouvoir essentiellement, et toute la problématique aussi, surtout en Syrie, à cause de la diversification sociale, politique, à cause de la situation stratégique entre la Turquie d'une part, Israël bien sûr, qui est un problème essentiel, à cause de ses relations avec l'Iran et ses soutiens à Hezbollah, donc le problème israélien, tout cela crée une situation extrêmement compliquée qui fait que les grandes puissances qui ont toujours soutenu Assad depuis 1980, rappelez-vous de ce qui s'est passé à Hama, et ça a passé absolument inaperçu, et même, je me rappelle, d'une phrase qui était, je ne sais plus si c'est le Nouvel Observateur ou l'Express peut-être, je sais, qui parlait de Assad père après le massacre de Hama comme le protestant de l'islam. Donc, les puissances étrangères n'ont pas une position très claire. Ce qui les intéresse, c'est de pouvoir probablement réduire le régime pour qu'il puisse être plus docile, mais le peuple syrien, pour l'instant, ça ne les intéresse pas énormément. Ils les utilisent actuellement, pour aller très brutal, ils utilisent actuellement ce qu'on appelle le Conseil national syrien, qui ne représente pas grand-chose, qui a été monté par les gens de Qatar avec les Turcs, avec le soutien de l'Arabie saoudite, mais maintenant tout à fait accepté et adopté pratiquement par le Quai d'Orsay, par la présidence, disons par la France. Il l'utilise pour le cas où il serait obligé à faire telle ou telle politique. Pour l'instant, le peuple syrien n'est pas tenu en compte. La situation est extrêmement difficile, bien sûr, elle est complexe. Ce qu'il y a à éviter, c'est une guerre civile qui pourrait s'étendre à toute la région et qui pourrait être le début d'une confessionnalisation complète de la région qui, excusez-moi de le dire, a été déjà prévue, si vous lisez les mémoires de Ben-Gurion, vous verrez un certain nombre de choses sur la volonté de créer des États confessionnels dans toute la région pour que l'État d'Israël apparaisse un État comme tous les autres, un État confessionnel. Donc, quoi dire après ça? Il y a tellement de choses à dire, mais peut-être que pendant les questions, je pourrai y répondre. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Boutros Allah. On voit bien l'importance de connaître l'histoire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et alors, ça nous donne envie de reprendre peut-être des lectures de fond au-delà simplement des événements de l'actualité immédiate. On va avoir l'occasion de revenir sur la Syrie sûrement dans les questions. Il est temps maintenant de commencer le débat pour qu'on puisse peut-être revenir sur des choses qui ont été dites. Et puis, 1, 2, oui, je crois que ça marche.
Et voilà. Alors, on va prendre 2 ou 3 questions, des questions si possible brèves, et les réponses seront aussi brèves pour permettre à tout le monde, le plus grand nombre possible, d'intervenir. Oui.
Bonsoir, merci de vos interventions. J'ai une question par rapport à l'interprétation qu'on a faite des élections législatives en Égypte, où on a dit 65% d'islamistes qui ont obtenu les suffrages, et tout le monde s'est étonné de cela, et moi je ne comprends pas qu'on se soit étonné de ça dans des pays qui sont en majorité musulmans, qu'on connaît, qui sont très religieux, où on peut reconnaître que l'islam est une religion qui apporte un code, etc., une conception de la société qui se veut totale. Moi, ça ne m'est pas du tout étonné que les partis politiques de confession musulmane, enfin à obédience musulmane, emportent les pouvoirs dans des pays qui soient si musulmans de toute façon. Ils n'ont pas daté.
Voilà. Merci. Ma remarque. Donc c'était l'interprétation des élections législatives en Égypte. Il ne faut pas s'étonner du résultat. On va peut-être prendre une autre question ou conviction. Oui. Tu montes, s'il te plaît. Voilà, levez bien la main pour qu'on puisse faire passer au milieu. Voilà, faire passer le micro.
Merci, bonsoir. C'était juste une question sur la Syrie. Je voulais savoir s'il y avait aussi une composante religieuse à l'intérieur de l'islam, des luttes entre chiites, sunnites, diverses obédiences. J'ai cru entendre dire qu'en Syrie c'était le cas, et est-ce que ça peut être le cas dans d'autres pays arabes dans lesquels on a connu le printemps arabe, ou alors il y a une moins grande diversité dans les autres pays?
Merci. Une troisième peut-être intervention. Alors le micro juste à côté derrière, voilà.
Oui, toujours, bonsoir. Toujours sur cette question des répartitions de pouvoir dans les pays, est-ce que vous pouvez dire 2 mots sur ce qui reste ou ce qui ne reste pas, je ne sais pas, du parti basse en Syrie?
Eh bien, merci beaucoup. On va peut-être en rester là pour l'instant. Alors, on va peut-être commencer par l'Égypte, finalement. Est-ce qu'il fallait être surpris du résultat des élections législatives?
Oui, j'essaie de répondre à votre question. J'ai l'impression que vous mettez dans le même sac musulmans et islamistes. Je pense qu'il faut évidemment distinguer. C'est-à-dire, quand je dis l'Égypte est une société religieuse, je pense d'ailleurs non seulement aux musulmans, mais aux coptes. Vous savez que l'Égypte compte une forte minorité chrétienne, la plus grande église du monde arabe, l'église copte. Il n'y a pas que des musulmans en Égypte. Mais de même que tous les Arabes ne sont pas musulmans, que tous les musulmans ne sont pas arabes, évidemment tous les musulmans ne sont pas islamistes. Jusqu'ici, nous avions une société en Égypte qui évoluait vers une modernité, si vous voulez, avec des musulmans à sa tête, des musulmans pieux, croyants, mais qui ne voulaient pas que la religion investisse tout le champ social comme veulent le faire les islamistes. Ce sont 2 choses différentes. Je pense que des musulmans sont peuvent tout à fait être démocrates, si vous voulez, à condition de ne pas vouloir que la religion gère toute la société. Si vous partez du principe que le Coran, c'est la règle et qu'il faut gérer la société selon le Coran, ce n'est pas compatible avec la démocratie. Donc, je faisais donc la distinction, si vous voulez, bien entendu, entre musulmans et islamistes. D'où l'étonnement quand même que 60% des voix aillent en Égypte à des islamistes. Je ne pense pas que ça représente exactement la société égyptienne. Je ne pense pas que ces élections reflètent l'état réel de cette société qui est pieuse, qui est croyante, mais qui n'est pas islamiste dans sa majorité.
Alors, il y avait une question sur la Syrie. Je vais peut-être donner la parole à Agnès et puis vous pourrez compléter sur la composante religieuse de ce qui se passe en Syrie, puis ce qui reste aussi un peu du Bas.
Alors, pour ce qui concerne la composante religieuse en Syrie, Effectivement, la composante religieuse qui est sunnite, chiite, chrétien, mais aussi kurde, existe bien évidemment, si j'ai bien compris le sens de la question, dans d'autres pays voisins, notamment l'Irak, où on retrouve sunnites, chiites, kurdes et chrétiens, de moins en moins nombreux, bien évidemment, depuis le début de la guerre. Et je pense qu'on peut aussi dire qu'à Bahreïn, existe aussi une composante religieuse, puisque la majorité de la population est chiite, mais le pays est dirigé par une minorité sunnite. Donc il y a beaucoup de compositions ethniques ou communautaires, disons, dans ces pays. L'Arabie saoudite aussi, puisque c'est majoritairement sunnite, mais l'Arabie saoudite a une minorité chiite. C'est le cas, on peut peut-être parler aussi de l'Algérie, où il y a aussi des Kabyles. Enfin bon, les pays de la région sont composés de communautés différentes. On parle beaucoup en Syrie des craintes justement de guerre civile en raison de la façon dont le pouvoir a pendant longtemps utilisé et monté les communautés les unes contre les autres. Et je voulais vous citer simplement un chercheur français qui s'appelle Bernard Rougier, qui parlait de la fracture communautaire entretenue par la pratique politique, encouragée par le pouvoir, pour que la société soit ingouvernable ou ne le soit que par le pouvoir en question. Et de cette façon, dit-il, si le pouvoir disparaît, c'est la guerre civile. Donc c'est effectivement une des craintes que l'on a pour la Syrie. C'est aussi une des craintes que l'on avait pour l'Irak, à raison, puisque, disons que la guerre en Irak, l'intervention américaine a conduit à un éclatement de l'Irak et à un éclatement de l'Irak en quasiment trois, non pas fédérations encore pour l'instant, mais trois zones qui sont la zone kurde, qui est pratiquement indépendante, une zone plus ou moins sunnite et une grande majorité du pays qui est chiite et la composante chrétienne ayant pratiquement disparu malheureusement de l'Irak. Et je rajouterai pour la Syrie que effectivement les chrétiens de Syrie, dont on critique beaucoup aussi le fait qu'ils ne soient pas très présents dans le soulèvement, enfin vous en pensez peut-être, vous pensez peut-être pas la même chose, mais il faut reconnaître que les chrétiens syriens, dont beaucoup aussi sont dans des régions qui sont des villes comme Alep par exemple, très proche de la Syrie, très proche de l'Irak, ont vu arriver des centaines de réfugiés, des centaines de milliers de réfugiés chrétiens passer par la Syrie. Et c'est vrai que pour les chrétiens, ce qui se passe actuellement en Syrie est très inquiétant, parce que pour eux, ils sont le deuxième pays où les chrétiens pourraient avoir à partir, après ce qui s'est passé évidemment en Irak. Voilà, donc... je ne sais pas ce que vous en pensez.
Voilà, un compliment peut-être aussi pour parler de la communauté alaouite, parce que c'est un élément important, le rôle de la communauté alaouite dans la Syrie actuelle, et puis le parti basse, et puis les chrétiens, peut-être. Comment vous voyez les choses ? Ça, c'est pour la troisième soirée d'éthique publique que l'on fera. Oui, non, mais vous avez raison. Allez-y.
N'oublions pas que... en Palestine, les chrétiens étaient au début du XXe siècle 20%. Avec ce qui se passe depuis 1948, ils sont à peine 1%. Donc, avant l'Irak, mieux. La diversification communautaire est évidente. Mais je ne voudrais pas être très contrariant. En figeant les choses de cette façon-là, on aboutit qu'à des guerres. Il y a des communautés, bien sûr, mais en parlant seulement que de communautés, on fige la situation et on revient à peu près au début du 19e siècle. On fait abstraction de deux siècles où il y a eu du mouvement. Dans toute société, il y a un mouvement, même celle qui semble la plus morte, la plus inanimée. Aller dans ce sens, c'est justement ce que les Américains ont fait avec Bush, et en disant de façon extrêmement claire, Alors qu'en Irak, il y avait au moins une vingtaine de communautés, pas seulement les chiites, les sunnites et des chrétiens, les Kurdes étant un genre neutre, ils sont musulmans mais ils ne sont pas arabes, alors c'est quoi? Ils ont décidé qu'il y avait trois communautés, les Kurdes, les chiites et les sunnites. Et c'est en fonction de ça qu'ils ont détruit, ils ont commencé par détruire l'institution militaire qui était bien sûr maîtrisée et sous les ordres de Saddam Hussein, mais n'empêche, c'était une institution qui aurait pu, qui était la seule, qui aurait pu tenir le pays en dehors, après Saddam Hussein. Donc il y avait une volonté de simplifier extrêmement les choses, et bon, il y a ces trois communautés, les chrétiens, bon, c'est pas important, on laisse tomber, et d'ailleurs, ils ne sont pas beaucoup émus pour ça. On a envoyé des tentes, on a envoyé de l'aide, surtout dans les régions limitrophes de l'Irak en Syrie. Le reste importait peu. Ce que je veux dire par là, concernant la Syrie, le pouvoir en place est issu de la communauté alaouite. Cela est évident. Mais pour il ne représente pas les alaouites. Il a pris... je parle de Assad, père. Il a pris le pouvoir en Syrie contre une autorité, un pouvoir qui était lui aussi majoritairement alaoui, Salah Jadid. Et cette minorité qui a été complètement décimée. Les gens qui ont été torturés, mis en prison parmi les alaouis sont extrêmement nombreux. La vision de Assad et de son fils n'a pas de vision, il est dans le moule, c'est de garder le pouvoir. Or, pour garder le pouvoir, on utilise tout ce qui est en son pouvoir pour eux. On peut jouer sur la corde communautaire, on peut jouer sur la corde essentiellement pour nationaliste parfois, de façon exagérée, en se présentant comme le héros de l'arabisme contre la puissance américaine ou contre Israël, alors qu'il ne fait rien pour ça, on sait très bien, sur le Golan depuis 73, pardon, il n'y a rien eu, ou bien en mettant de son côté une bourgeoisie, une nouvelle bourgeoisie, qui a profité de ce néolibéralisme qui a commencé avec Sadat en Égypte et qui a continué avec Assad, pour pouvoir compter sur une population. Et évidemment, il utilise également la veine communautariste auprès des minorités en général. Les Druzes, les Ismaéliens, les chrétiens, bien sûr, et d'autres minorités. Mais on peut difficilement dire que le pouvoir est alaouite. Les alaouites ont peur, et ils ont peur, comme les autres minorités d'ailleurs, ça c'est évidemment clair. Parce que ce qui a été mis en place après le reflux du mouvement citoyen des débuts en Syrie, c'est ce mouvement de conseil national qui est soutenu essentiellement par les islamistes après l'écrasement des premiers activistes jeunes qui, eux, avaient une vision tout à fait différente. Et ces frères musulmans qui nous représentaient en Syrie, même au moment le plus important, c'est-à-dire dans les années 70, à peine 15% de la population, politiquement, ils ne représentent pas, continuent à ne pas présenter grand-chose. Ils ont été pris en main par les pays, certains pays arabes, la Turquie et maintenant la France, pour pouvoir encadrer le mouvement après Assad. Alors, évidemment, ils profitent aussi du fait qu'ils ont été victimes pendant une trentaine d'années de la persécution des modernisateurs, Assad et compagnie. Et ils sont soutenus également, ils ont été soutenus indirectement par l'islamisation faite par Assad en Syrie, comme elle avait été faite par pas Moubarak, Sadat en Égypte, pour pouvoir amadouer la foule et dire aux islamistes, vous pouvez travailler comme vous voulez dans la rue, mais à condition de ne pas toucher à la politique et ne pas prendre les armes. évidemment, ça, ça a été un élément important aussi dans le sursaut des islamistes. Et essentiellement, ce qui a été très fort dans ce mouvement des musulmans, de l'islam extrême, c'est le soutien des wahhabites, c'est-à-dire de l'Arabie saoudite. Depuis 1967, l'Arabie saoudite, qui est devenue le centre de gravité du monde arabe, et qui s'est infiltré par ses associations, par ses pouvoirs, par son argent, dans toutes les sociétés arabes, comme elle a essayé de le faire un peu partout. Et elle a fait que l'islamisation est devenue plus importante. Et vous n'allez pas ne pas reconnaître que l'Arabie saoudite n'est pas soutenue par l'Occident globalement et de façon très claire. Et pour des raisons que vous connaissez. Bon, alors, c'est dans cette situation qu'il faut tenir les choses. Le Bas lui-même.
Voilà. Le Bas.
Le Bas lui-même, depuis que Assad a pris le pouvoir, et surtout depuis 1974, est devenu un groupe de propagandistes et un moyen de résorber le chômage. Le Bas n'existe plus depuis très, très longtemps.
En Irak non plus, d'ailleurs.
En Irak non plus.
On reprend une série de questions. Voilà, alors, levez bien la main très haut. Voilà, tu viens par ici. Voilà, tout au fond. Il y a plusieurs questions. Voilà, levez bien la main, j'ai vu la vôtre. Voilà, monsieur, voilà.
Oui, je voudrais vous demander quel rôle peut jouer et quelle influence peut avoir l'université Al-Azhar au Caire. Car j'ai lu cet été une interview du nouveau chir de l'université Al-Azhar qui disait, et ça je comprends très bien, que les chrétiens étaient une partie intégrante de l'Égypte, étaient des citoyens à part entière. Et répondant à plusieurs questions, l'une qui m'a en tout cas étonné, la réponse m'a étonné, parce qu'on lui a demandé, à moins que la traduction ait été mauvaise, on ne sait pas, on lui a demandé s'il pensait que un musulman converti devait être condamné à mort. Et il aurait répondu, non seulement il n'est pas question de le condamner à mort, mais je considère personnellement qu'un musulman qui, en toute liberté de conscience, choisit de devenir chrétien ou une autre religion, nous n'avons pas le droit de l'en empêcher. Je veux dire que cette réponse m'avait un peu étonné.
Bien, merci. On va prendre une autre question au milieu. Descends.
S'il vous plaît, Monsieur Robert Solé a dit qu'il ne fallait pas mettre dans le même sac les musulmans et les islamistes. Est-ce que ce n'est pas une façon d'une certaine façon, j'ai l'impression qu'on est en train de nous tromper, hein. J'ai l'impression qu'il y a des musulmans et il y a ceux qui obéissent réellement à leur confession et ceux qui n'y obéissent pas réellement. Ceux qui prennent la religion au sérieux, ce sont des islamistes. Eux, ils appliquent tout ce qui est écrit dans le Coran et dans les hadiths. Et puis, il y a tous ceux qui sont peut-être théoriquement musulmans parce qu'ils sont nés dans une famille musulmane, mais qui aspirent à autre chose. Donc ça, ce sont des mauvais musulmans. Ayons le courage de nous le dire clairement.
Voilà, merci pour cette conviction. Est-ce qu'il y a au deuxième rang.
Monsieur Solé a déjà répondu un peu à la question que je vais poser, mais je pense qu'il faudrait peut-être un peu développer la chose. Quand on considère le développement, la réislamisation de tous les pays autour du sud de la Méditerranée, y compris la Turquie, qui n'est pas arabe, hein, qui est ottomane, ma question est-ce que la démocratie, la charia, je veux dire, et compatible avec la démocratie.
Merci. Là, oui, effectivement, on va pouvoir faire plusieurs soirées, je crois, sur cette question-là. On va s'arrêter pour l'instant, parce que je crois que c'est... Voilà, alors, le rôle de l'université El-Azhar, musulman islamiste, la charia compatible. Voilà, je pense que tous les trois, vous aurez des choses à dire, mais Monsieur Robert Solé, d'abord.
Oui, ce serait long pour El-Azhar, comme vous savez, c'est la mosquée-université, une institution prestigieuse dans le monde sunnite, qui a une très grande importance, et que le pouvoir égyptien depuis Nasser a mis à son service. Et donc Al-Azhar a une attitude, a eu, par exemple, au moment de cette révolution égyptienne, une attitude au début silencieuse, puis ensuite s'est ralliée au mouvement, et aujourd'hui joue un rôle de médiateur, tout en ne contrôlant pas ses propres troupes, parce que la tête d'El-Azhar ne contrôle pas El-Azhar lui-même. C'est donc très compliqué. Et donc ce n'est pas étonnant que vous ayez des réponses. Moi-même, j'avais eu à El-Azhar une réponse très contradictoire concernant la Constitution. La Constitution égyptienne qui elle-même est contradictoire, puisqu'elle dit dans un de ses articles « Tous les Égyptiens sont égaux, quelle que soit leur religion ». Mais elle dit dans un autre article l'Égypte est un État musulman et sa jurisprudence s'inspire principalement de la jurisprudence musulmane. On est dans une contradiction totale et donc vous entendrez des propos tout à fait contradictoires à El-Azhar et ailleurs. Ce qui compte, comme je disais tout à l'heure, ce sont les faits. Les faits, pour répondre à une des questions que vous posiez, c'est que, par exemple, un musulman peut épouser une chrétienne, un chrétien ne peut pas épouser une musulmane. Voilà, ça c'est dans les faits, la traduction, les choses concrètes, c'est là-dessus qu'il faut juger les choses, et pas sur les propos tenus par les uns et les autres qui sont toujours contradictoires. Je m'excuse, je passe très vite parce qu'il y avait trois questions. La deuxième, concernant... Monsieur disait, les islamistes, finalement, ce sont de vrais musulmans et pas les autres. Moi, je ne suis pas musulman et je ne peux pas me prononcer vraiment là-dessus. C'est vrai qu'il y a des gens, un jésuite dont je ne citerai pas le nom ici, égyptien, qui dit finalement, l'islam doit se moderniser, mais s'il se modernise, ce n'est plus l'islam. Bon, il vous rejoint là. Là, il vous rejoint, mais moi, je... Je n'ai pas à dire les islamistes, j'en sais rien. Moi, je juge les musulmans, quand les musulmans, j'ai beaucoup d'amis musulmans qui me disent l'islam est une religion de paix pacifique, moi je les prends au mot. Simplement, je demande que les faits correspondent à ce qu'ils disent. C'est tout ce qu'on peut dire. Il ne m'appartient pas, moi, à dire qu'il faut prendre le Coran à la lettre. Je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui gouverner avec le Coran. Un pays, ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable, surtout dans des pays où il n'y a pas que des musulmans, encore une fois. La troisième question, est-ce que la charia est compatible avec la démocratie?
La charia ou l'islam?
Voilà. Il y avait un grand article dans Le Monde, il y a deux ou trois jours, d'un arabisant, un article très savant qui expliquait tout ce qu'il ne fallait pas mettre dans le mot charia. Mais on n'était pas plus avancé quand on avait lu la totalité. Moi, je vais vous répondre simplement, comme j'ai répondu tout à l'heure, l'islam est tout à fait compatible avec la démocratie. En revanche, l'islamisme pur et dur est totalement incompatible avec la démocratie. Alors... Ça dépend, encore une fois, de ce qu'on met derrière le mot charia, n'est-ce pas? Tout simplement. Il y a des musulmans, qui sont totalement démocrates. Et nous en connaissons tous voilà. Simplement, ça dépend si vous voulez appliquer à la lettre des prescriptions qui sont d'un autre âge. Évidemment, c'est incompatible avec la démocratie.
Merci.
Merci Robert. Agnès, sur ce sujet.
Alors, pour ce qui concerne Al-Azhar, moi je voulais simplement rajouter, tout en sachant qu'il faut toujours se méfier des mots, que j'ai rencontré Mahmoud Azab, qui est le conseiller question dialogue de l'université, de l'imam de l'université d'Al-Azhar. Et j'ai senti chez cette personne, alors évidemment il faut toujours se méfier comme vous le dites, mais la volonté aussi d'éviter l'éclatement de la société égyptienne. Et j'ai eu l'impression que cette personne était très concernée par le fait que si les islamistes arrivaient au pouvoir, je parle bien des islamistes ou des salafistes arrivaient au pouvoir, les risques étaient grands d'une partition de la société égyptienne, et que il semble qu'Al-Azhar fasse quand même beaucoup de choses pour éviter ou pour essayer de rassembler la société égyptienne. Et ils ont une initiative qui s'appelle l'initiative s'appelle la maison de la famille égyptienne. Et en fait, au sein de cette famille égyptienne, ils ont réuni les différentes communautés, dont les chrétiens d'Égypte. Et ils discutent de chaque cas qui se produit de discrimination dans le pays. En fait, cette initiative est née à la suite des attentats qui avaient eu lieu en Irak. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et dans une église en Irak, c'était il y a 2 ans. Ouais. Et donc, à la suite de ça, très choquée par ce qui s'était passé et ayant aussi en Égypte eu des cas d'attentats contre des églises coptes, ils ont créé cette initiative, cette maison égyptienne. Et donc, ces groupes composés d'Égyptiens, de musulmans, de chrétiens, de laïcs, de gens de la société, de professeurs, d'universitaires et autres, se réunissent chaque fois qu'il y a des événements qui se produisent, et ils essayent de lire ces événements autrement que par souvent le biais de l'accusation d'une communauté contre une autre, en disant qu'en Égypte, il n'y a pas normalement, il ne devrait pas y avoir de discrimination religieuse. Et donc souvent ce sont des actes qui sont plus des actes de droit commun, mais on les monte un petit peu comme des actes religieux, et au bout du compte, en fait, on monte un peu la société égyptienne l'une contre l'autre. Je voulais simplement aussi parler de répondre à la question sur l'islam est-il compatible avec la démocratie, et monsieur, je crois, parlait de la Turquie. J'ai pas mal travaillé sur la Turquie, sur ces questions-là. On parle beaucoup de l'AKP comme étant un mouvement islamique modéré. Personnellement, je pense que l'AKP, la Turquie, a fait face à une période d'islamisation. Mais comme le disait un Turc qui s'appelle Ahmet İnsel, je ne sais pas si vous le connaissez, il disait l'islamisation de la Turquie est un peu comparable au fondamentalisme chrétien aux États-Unis. Et là, je pense qu'il a tout à fait raison. Beaucoup de sociétés à l'heure actuelle, se replient. Il y a une sorte de repli sur des valeurs religieuses. Alors évidemment, en Turquie, qui est un pays musulman, bien que laïque, on se replie sur les questions religieuses, comme on le fait aussi aux États-Unis, où les chrétiens fondamentalistes sont aussi très importants, très puissants maintenant. Donc, personnellement, je pense que l'islam est compatible avec la démocratie, mais la démocratie est quelque chose qui n'est jamais acquis complètement. Et elle n'est pas acquise non plus en France, elle n'est pas acquise dans nos pays non plus, il faut toujours être vigilant, toujours des inquiétudes à avoir, et elle l'est autant dans des pays qui, comme la Turquie quand même, sont des pays où, même s'il y a des tentatives parfois du pouvoir de réprimer, que ce soit les journalistes aujourd'hui, de nettoyer un petit peu les rangs de l'armée, il y a des contestations, il y a des discussions, il y a des retours en arrière. Donc je crois qu'il faut, il faut être conscient que rien n'est acquis dans le monde aujourd'hui, et qu'il faut lutter pour. Il faut lutter pour la démocratie, il faut lutter pour... voilà, et c'est ce que nous montrent aussi les révolutions arabes. Je veux dire, en Égypte, c'est impressionnant de voir quand l'armée réprime, et ben vous avez des manifestations dans les rues. Et ils viennent de loin, les Égyptiens reviennent de loin, et ils n'ont pas non plus envie qu'on leur vole ce qu'ils ont acquis. Ça sera dur, ça sera difficile, ça sera pareil pour d'autres pays comme la Libye, ça sera pareil pour la Tunisie, on le voit, pour la Tunisie, les femmes descendent dans la rue parce qu'elles pensent que leurs droits sont menacés. On ne quitte pas une dictature et on ne rentre pas dans une démocratie du jour au lendemain. Et on l'a vu en Espagne, après la dictature de Franco, il y a eu une période difficile, il y a eu une tentative de reprise en main de la dictature, et pourtant la démocratie a tenu. On a vu aussi dans les pays de l'Est, moi beaucoup de gens que j'interview me disent il y aura des hauts et des bas dans les pays arabes après ce qui s'est passé, comme il y a eu des tentatives aussi dans les pays de l'Est, après la Russie, l'ex-Union soviétique, des tentatives de retour en arrière, comme en Pologne aussi. C'est difficile, et ce sera difficile, mais il faut aussi avoir confiance dans ce que les gens, dans l'espoir que les gens ont mis dans leur évolution.
Boutros, là.
Oui, je voudrais aller dans le même sens. D'abord, le problème des déclarations du recteur de l'Azhar, c'est très bien, mais bon, ça n'a pas très important puisque l'Azhar sous Nasser avait fait une fatwa pour dire que le socialisme est tout à fait conforme à l'islam, et tout de suite sous Sadat, il a fait une autre fatwa dans le sens inverse.
Oui, mais l'imam n'est pas le même.
Pardon ?
L'imam n'est plus le même.
Justement, c'est pour cela que je dis que les déclarations du recteur sont très bien, mais il ne faut pas accorder beaucoup d'importance à ce genre de choses. Ce qui me semble beaucoup plus important, c'est le fait de voir l'autre, regarder l'autre. Et là, on est obligé de constater que les idéologies ont la vie très dure de part et d'autre. De la part des musulmans, souvent on regarde l'Occident en général comme un pays chrétien, comme la chrétienté. On est incluant également autrefois l'Union soviétique athée. Le fait de continuer à parler du monde musulman et de l'islam de cette façon, je crois que ça n'a aucune utilité. Au contraire, ça ne fait que creuser les écarts et monter les gens les uns contre les autres. Comme il n'y a pas de christianisme dans l'absolu, il y a des chrétiens qui changent d'après le pays, d'après l'histoire. Il n'y a pas d'islam, il y a des musulmans. Et les musulmans égyptiens en 1940 qui allaient écouter, par y compris les cheikhs, les chansons de Umm Kulsoum, n'ont rien à voir avec des musulmans égyptiens actuellement. Au Liban, c'était différent. En Syrie, c'était absolument différent. Il n'y a pas d'islam. Le fait de regarder ce monde globalement comme un monde musulman, ça a été la plus grande erreur de l'université française, qui continue à étudier les études arabes et islamiques, le monde musulman. Du fin fond de l'Afrique jusqu'en Chine, toutes ces sociétés ont quelque chose de commun. On s'en vu de façon hypostatique l'islam. Mais l'islam, ça n'existe pas. Il y a des gens qui vivent, qui fonctionnent d'une façon tout à fait différente. Et d'après ce que je vois, mes amis musulmans, d'après les définitions qui ont été données tout à l'heure, n'ont rien de musulman, alors qu'ils sont attachés à leur islam. Il y a une révolution intellectuelle à faire pour contribuer également à la paix. Et je voudrais terminer par une petite remarque. Le mouvement de la jeunesse en Tunisie, il n'y a pas de chrétiens, tous sont musulmans. Ce mouvement de jeunesse, ils sont issus tous de l'islam. Ils n'ont jamais fait référence, en Égypte aussi la même chose, et ailleurs aussi la même chose. Ils n'ont jamais fait référence aux révolutions musulmanes, que ce soit en Iran, que ce soit Hamas en Palestine, que ce soit les chiites de Hezbollah. C'est des musulmans, mais ce n'est pas le fait d'être musulman qui ne sont pas réduits au fait qu'ils sont musulmans. Je suis chrétien et croyant, mais je ne me reconnais pas seulement comme chrétien. Je suis un homme et citoyen d'un pays, et là, citoyen de deux pays, j'ai de la chance. C'est beaucoup plus complexe que le fait de l'islam. Je crois qu'il faut qu'on fasse très attention à ça.
Merci, oui.
Oui, je pense qu'il y a un an, après les révolutions tunisiennes et égyptiennes, personne n'aurait imaginé qu'un an plus tard, aujourd'hui, on aurait passé tant de temps à parler d'islam et d'islamisme. Puisque ces soulèvements, ces révolutions, en fait, n'avaient pas pour thème l'islam, elles avaient pour thème la lutte contre la torture, les mauvais traitements, les atteintes aux droits de l'homme et la lutte contre la corruption. C'était les deux points qui ont provoqué ces soulèvements populaires. Mais ce qui s'est passé, et maintenant, avec le recul, on en prend conscience, si vous voulez, c'est que ces régimes autoritaires, à la fois modernes par beaucoup d'aspects, mais autoritaires, ces régimes policiers, avaient fait en sorte qu'il n'y ait rien entre eux et les islamistes. Toute leur politique consistait à dire au peuple, choisissez, c'est nous ou bien les barbus, c'est nous ou les islamistes. Et à partir du moment où ce pouvoir-là tombe, eh bien, il n'y a plus que les islamistes. C'est ce qui s'est passé. Et je pense qu'aujourd'hui, si on doit tirer une conclusion, nous, de tout ça, c'est qu'il faut justement soutenir la troisième force. Tous ces musulmans, puisque c'est une immense majorité musulmane, démocrates, qui ne sont ni islamistes, ni pour un régime autoritaire et policier, et qui se battent à main nue, ce sont eux qui ont fait ces révolutions, ce sont eux qui aujourd'hui en sont les victimes, parce qu'ils perdent dans tous ces pays les élections, ce qui est un peu normal, puisqu'ils n'étaient pas préparés, ils n'avaient pas de moyens financiers, ils n'avaient pas eu le temps de s'organiser, mais c'est eux qu'il faudra soutenir. Et il faudra les soutenir en jugeant sur pièce, encore une fois, non pas sur les déclarations d'un tel ou un tel, qui sont toujours contradictoires, mais sur les faits. Est-ce que réellement la promotion de la femme sera maintenue? Je pense que c'est un point essentiel. C'est là-dessus que seront jugés les pouvoirs. C'est là-dessus que vont descendre dans la rue ces gens-là et qu'il faudra les soutenir. Voilà ce que je voulais dire.
Voilà, il est 21h15, nous avons très largement dépassé nos horaires habituels, il y aura encore beaucoup de questions, ça indique peut-être qu'il faudra que l'on revienne dans une prochaine soirée d'éthique publique sur ces questions internationales, sur la question aussi de l'islam, parce que nous n'en avons pas fini avec cette question de l'islam dans le monde et dans notre société française. Je voudrais vraiment remercier en votre nom Agnès Rotivel, Robert Solé et Boutros Allah pour leur présence, leur lumière aussi pour notre débat ce soir. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous au mardi 7 février prochain pour la prochaine soirée d'éthique publique autour des chrétiens et de l'élection présidentielle. Je ne sais pas si ça sera beaucoup plus simple que ce soir. Merci.